Ça commence par l'énumération à nouveau de tous ceux qui sont descendus en Égypte avec Yaakov Avinu. Et puis on nous dit que voilà, ils sont descendus. Yosef et tous ses frères ont disparu, toutes ces générations ont disparu. La génération, si vous voulez, de ceux qui ont sauvé l'Égypte en réalité, ceux-là ont disparu. Et en même immédiatement, les Bnei Israël vivent une explosion démographique absolument extraordinaire, avec des termes qui sont presque gênants. Au Passouk Zayin, la Torah dit au Bnei Israël, par où, ok, ça, c'est la chaude prix, c'est bon, mais va Yishretsu, ils ont pullulé. Enfin, c'est appliquer pullulement aux êtres humains, c'est totalement injurieux, quoi. Et alors, Rashi dit, pour nous sortir un petit peu de pourquoi c'est pullulement, parce que Shayu Yoldot, Shisha Beker Echad, parce que les femmes, elles avaient des sextuplés. Donc, ça ressemble à, à une portée animale de chaton ou de chiot, et, ou encore plus, Ishretsu, c'est Sheretz, c'est des insectes. Un pullulement d'insectes, c'est effrayant. Vayirbu, vayatsmu, bimeod meod. Le mot meod, il veut dire déjà au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, mais bimeod meod. Voilà, c'est. Et puis, vatimale haaretz otam. En fait, les Bnei Israël, l'ordre, en quelque sorte, l'extrême, le conseil très appuyé de Yosef, c'est vivez à Goshen. À Goshen, ils auraient été coupés des Égyptiens. Goshen, c'est les pâturages, ils auraient été bergers. Et en tant que bergers, c'est dégoûtant pour les Égyptiens. Les Égyptiens ne seraient pas vus là. Mais évidemment, ils sont sortis et ils ont rempli le pays. Alors pour ceux auxquels ça dit quelque chose, on a presque l'impression de... C'est l'impression qu'avaient les Allemands. À peu près à l'époque de Weimar, les Juifs étaient partout. Ils étaient dans toute la modernité, soi-disant, enfin avec des guillemets, allemande. Les Juifs ils étaient à la tête de tout ça. Ils tenaient les journaux, ils tenaient énormément de choses. Alors voilà, ça c'est la description de. Voilà, c'est la mise en scène du clan d'Israël. Ensuite, ils sont en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de l'Égypte? Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Il y a un nouveau roi en Égypte. Un nouveau roi, c'est probablement une nouvelle dynastie. Ça, c'est si vraiment c'est un nouveau roi. Mais là-dessus, il y a une discussion entre deux Amoraïm, deux grands Amoraïm, Rav et Shmuel, deux maîtres de la Gemara. L'un dit, c'était vraiment un nouveau roi, probablement une nouvelle dynastie, qui avait, le système, c'était, on martelait tout ce qu'il y avait, tous les hiéroglyphes qui racontaient les hauts faits de la dynastie précédente, et on recommençait comme si l'Égypte commençait à nouveau. Alors, un tel roi, il connaît pas Yosef. Il connaît pas, en tout cas, voilà, on a martelé tout ce que Yosef avait fait. Il a quand même modifié l'organisation du territoire, etc. Mais il y a une autre opinion. L'autre dit, non, c'est pas du tout un nouveau roi. C'est pas un nouveau roi ou c'est pas du tout une nouvelle dynastie. Ce sont les mêmes. Mais Asher lo yada et Yosef, ça veut dire Nitrachuk Zerotav. Il a pris des décrets différents de ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait l'expression de la reconnaissance égyptienne pour Yosef et pour sa famille, etc., au sens large. Et là, c'est le contraire. Des décrets anti l'Israël. Et alors ce roi, quel que soit donc ce nouveau roi, quel que soit le sens du mot nouveau, il tient un discours à son peuple. Et il leur dit, Hine, voici, il y a une nouvelle situation. Et puis il parle d'un peuple, Am. Ce peuple, il a un nom, il s'appelle Bnei Israël. C'est pas Am Israël, c'est Am Bnei Israël. Le peuple qui s'appelle Bnei Israël, Rav. Il est nombreux, Ve'atsum est plus puissant que nous. Peut-être plus nombreux ou plus puissants et plus puissants que nous. S'ils sont plus nombreux que les Égyptiens, ça veut dire... Bon, c'est vrai qu'on vient de dire qu'il y a une explosion démographique, mais bon, ils sont plus nombreux que les Égyptiens. Supposons que ce qu'il dit est vrai. Ça peut ne pas être vrai, mais... Et ils sont puissants, ça veut dire... Ces gens-là, les Israël, ils sont puissants, un état dans l'état, quoi, quasiment. Alors c'est très dangereux. Ava, allons, ça veut dire, Rachidi, Ava, ça veut dire, la shonachana, beazmana, adavar. Ça veut dire, préparez-vous, préparons-nous, préparez-vous. Nitrak malo, soyons plus intelligents que lui. Lui, c'est le peuple. C'est-à-dire, voyons ce qu'on peut faire contre eux. Alors, le nitrak malo, l'eau, c'est un singulier. Alors, la première lecture que Rashi a faite, que je vous ai traduit, maintenant, c'est l'eau, c'est le peuple. Mais les Chachamim ont fait une dracha en disant que soyons plus intelligents que lui. Mais un lui qui ne s'adresse pas au peuple, mais à un individu. Yitrakma, le Moshiyam chez l'Israël. Il faut qu'on sache quoi faire contre le libérateur, le sauveur d'Israël. Ensuite, je ne sais pas pourquoi Rachid est passé au pluriel de nouveau, l'Adunam Bemaim. On devrait dire l'Aduno Bemaim. Alors, son idée, c'est pourquoi est-ce qu'il faut les juger? Pourquoi il faut les frapper avec l'eau? Parce que Kvar Nishba Shelo Yavi Mabul Leolam. Parce qu'il avait déjà juré qu'il n'amènerait plus de déluge sur le monde. Et Rashi, je ne sais pas si c'est un vieux Rashi, Rashi ajoute ici, Em lo yvinu she al kol haolam em lo mevi aval ou mevi aluma achat. C'est Rashi Yashan, un Rashi ancien, qui dit qu'ils n'ont pas compris que quand Hachem a dit « je n'enverrai plus de déluge », c'est sur le monde entier. Mais un déluge local, oui. Alors, la grammaire ici de ce Rashi est un peu compliquée. Comme vous avez entendu, d'abord il dit que l'eau c'est la âme, et après il dit, bon, Rabotainu y pense, le Moshi Am chez l'Israël. On n'a pas encore parlé du tout de Moshe Rabbeinu. Donc le Moshiam chez l'Israël, c'est Hachem. Puisqu'après, c'est de lui qu'il parle en disant que Unishba chez Loyavi, Maboul. Donc c'est bien Hachem. C'est-à-dire, il y a quelque chose déjà dans son discours qui. C'est la façon dont les Chachamim ont entendu le lot ici, c'est pas un individu, c'est Hachem. Nitrak molo, Soyons plus intelligents qu'Hachem. Hachem qui protège ces ministres. Ça, ils ont déjà compris. Alors, si par exemple, il s'agit de quelqu'un qui sait très bien que Hachem a aidé Yosef et que ils savent ce qu'était Yaakov, etc., même s'ils font comme s'ils ne savaient pas, ça va très bien. Ils savent très bien que c'est Hachem. Et là, ils utilisent le serment qu'Hachem a fait de ne plus envoyer de Maboul, sauf qu'ils ne l'ont pas bien entendu. Ils ont cru que ça voulait dire qu'il n'y aurait plus jamais de trompe d'eau, quoi, si vous voulez, même locale. Il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas de Carmel ou autre. D'accord? Il n'y a pas de... Ouais. Alors, voilà, il faut passer par l'eau pour les punir. Pourquoi? Pour les empêcher, de peur qu'ils ne se multiplient encore. Et voilà tout de suite la théorie du complot. Kitikrena milchama, si jamais il y a une guerre, venil chambanu. Et donc ce peuple des Bnei Israël, il va faire la guerre contre nous. Ve'ala mina haaretz. Et ils vont sortir du pays. Ce peuple va quitter le pays, ils vont quitter l'Égypte. Donc ça veut dire leur crainte, c'est on veut qu'ils restent ces juifs-là, mais pas qu'ils soient puissants. Mais on a besoin d'eux. Il faut les empêcher de partir. Ils sont très importants. Quand l'Espagne a expulsé les juifs d'Espagne, l'Espagne a périclité. Ve'ala min ha'aretz. Voilà, ils vont sortir du pays. Qui? Les Bnei Israël. Ce peuple des Bnei Israël, il a quitté l'Égypte. Alors les Chachamim, Ramban, regardez le Ramban si vous avez le Ramban devant vous. Voilà Minaharetz, Al Kochenu. Ils vont partir, ils vont quitter le pays à notre corps défendant. Nous ne sommes pas d'accord, mais ils vont le faire. Le Rabotin ou Darshu, dans la Gemara, dans Sota, on discute toute cette situation. Et la Gemara, elle dit, et c'est ce que Ramban rapporte ici, quand il dit Ve'ala mina haaretz, lui, le pharaon en question, il ne veut pas du tout dire que c'est les Juifs qui vont partir, les Bnei Israël qui vont partir. Il veut dire qu'ils vont faire la guerre contre nous, ils vont s'allier avec nos ennemis et ils vont nous chasser du pays. Ils vont virer les Égyptiens. Ils vont installer les envahisseurs avec l'aide des Juifs, enfin des Bnei Israël, vont s'installer en Égypte et virer les Égyptiens. Alors pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils parlent de telle sorte que dans cette phrase on a l'impression que c'est les Bnei Israël qui vont partir? Parce que Adam shemekalel atzmo v'tole kilato b'acherim. C'est comme quelqu'un qui, en fait, dit du mal de lui, mais il ne veut pas dire, il veut pas exprimer la chose sur lui. Alors, il le dit sur l'autre. Donc, il faut entendre « Keilu katav ve'alinu mina haaretz ». Et nous, on va être chassés de du pays. « V'hem irashua ». Et eux, les Juifs et les envahisseurs, ils vont être hérités du pays. La Shon Rabbeinu Shlomo. Bon, ça, c'est ce que dit Rashi. Rabotenu darshu ke adam shemkalel atzmo vetolek kilato b'acherim. Donc tout ce que le Rabban cite. Ensuite, il discute. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le lire? Il n'est pas absolument d'accord avec Rashi. Mais bon, c'est intéressant de voir que le premier à dire que les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, c'est Paro lui-même. La première occurrence de la sortie d'Égypte, ici, c'est Paro lui-même qui la formule. Et c'est pas du tout ça qu'il veut dire, bien sûr. Mais ce lapsus, en quelque sorte, est intéressant. Alors, les mesures qu'ils prennent, ça révisime. Donc, on a installé des impôts et donc des collecteurs d'impôts pour effectivement peser sur eux, pour les faire souffrir. Et on leur a assigné des tâches. Ils devaient construire ces fameuses Aré Miskenot, le Paro. A priori, Aré Miskenot, c'est des villes silos, des villes Otsarot, c'est-à-dire des espèces de réserves, des villes de réserves. Mais la Gemara, on présente, c'est un pluriel et on donne leur nom, Pitom et Ramsès. Donc, c'était des villes qui existaient, mais elles n'étaient pas faites pour ce pourquoi ils les voulaient. Asaoum, Chazakot, Ubetsurot, Laotsar. Et on va fortifier ces villes parce que c'est dans ces villes-là qu'on va conserver les trésors du pays, les réserves de blé, les réserves de, je sais pas, de ce qu'il y avait là-bas. Agmara, elle dit que, en réalité, ces villes, c'est un peu le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire que, on leur disait, voilà, vous devez construire les fortifications de cette ville. Et quand ils construisaient d'un côté, ça se détruisait de l'autre. En vérité, c'était un travail totalement inutile. Parce que, au fur et à mesure que eux construisaient, ça se détruisait. Mais le but de l'exercice, c'était de les empêcher de se multiplier. Donc, les assommer de travail pour qu'ils ne soient plus capables d'avoir de l'énergie pour avoir des enfants. Mais plus on les a fait souffrir, plus ils se sont multipliés. Renifrot, ça a tout dépassé. Il a dépassé les bornes. Et c'est arrivé jusqu'à ce que il y avait Vayakutsu Mibnem Neisraël. Les Égyptiens étaient dégoûtés. C'est-à-dire, comme l'expression de Rivka, Katsti Bechayai, Katsu Bechayem. J'ai marre de vivre. J'en ai marre de vivre. Rachamim ont expliqué le mot Vayakutsu, comme s'il venait du mot Kots, qui veut dire les épines. Donc c'était comme des épines dans leurs yeux. Mais Yakutsu, ça veut dire vomir. Et le Midrash dit que les Égyptiens, quand ils voyaient ces Bnei Israël, ce peuple-là, ces gens, Ils vomissaient, ils étaient vraiment physiquement dégoûtés. Et si on a dit que ça donnait l'impression de Vaishrutsu, ils avaient l'impression que ça pullule. Et je crois que pulluler, c'est une des images qu'on met dans tous les films d'épouvante ou de dégoût, etc. Le pullulement, c'est quelque chose qui met l'être humain mal à l'aise. qu'en plus ce pullulement est un pullulement humain, ils étaient à ce point mal à l'aise qu'ils en vomissaient. Mais les Chachamim ont expliqué un petit peu cette histoire de pourquoi ça va jusqu'à vomir quand même. Ils peuvent, il faut vraiment éprouver, fabriquer une espèce de dégoût, un dégoût qu'on a peut-être devant, je sais pas, des insectes ou des choses qui dégoûtent, quoi. Pour faire que les êtres humains, qui sont des êtres humains, même s'ils sont très nombreux, dégoûtent, en fait. Ils sont pas sales, ils sont pas difformes, il y a rien de, c'est vrai, ils sont tout à fait normaux, mais c'est des Bnei Israël. Alors le Chachamim explique que quand les Bnei Israël sont, comme on a vu plus haut, ils ont rempli le pays, ils étaient partout. Partout, ça veut dire qu'ils se sont très fortement assimilés. Cette assimilation des Bnei Israël, elle va accumuler, ils ont probablement encore se développer jusqu'à la situation où il y a quand même 80% du peuple qui se considère suffisamment égyptien pour ne pas vouloir sortir d'Égypte. Ils disent, nous, on reste ici, on est bien là. Et même ceux qui sortent, vous savez, vous savez bien, on a lu ça l'année dernière, il n'y a pas si longtemps, ils ne vont pas arrêter de dire on retourne en Égypte, c'est difficile, on retourne en Égypte. Ils se sentent égyptiens. Ça fait 210 ans qu'ils sont en Égypte, à la fin. Ils vont être 210 ans en Égypte, c'est plusieurs générations. Ces gens-là sont égyptiens. C'est presque des Égyptiens de confession mosaïque, mais pas tellement mosaïque, parce que terriblement assimilés. Au point que Rambam dit qu'on a tout oublié, quasiment tout oublié en Égypte, de l'enseignement d'Abraham Avinu, et les seuls qui se souviennent un peu de quelque chose, c'est la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi? Vous savez, quand Yaakov a décidé de descendre en Égypte, il a envoyé Yehuda pour organiser le campement, enfin organiser l'établissement d'Ebné Israël en Égypte. Mais il a nommé un Rosh Yeshiva, et le Rosh Yeshiva, c'était Lévi. Donc celui qui s'occupe de l'étude, quelle qu'ait été la forme de l'étude à ce moment-là, celui qui s'occupe de l'étude, c'est Lévi. Et c'est probablement ça qui a fait que eux, qui étaient vraiment dans l'étude, ils étaient aussi en charge d'enseigner, mais après, pour enseigner, il faut que les gens veuillent bien écouter. Mais en tout cas, eux, ils ont suffisamment étudié pour que les éléments de la Torah d'Abraham Avinu, en quelque sorte, soient encore un peu présents chez eux. C'est aussi pour ça, probablement, que le trio qui va diriger le clan Israël dans toute cette affaire, c'est un trio qui est issu d'une famille où le père et la mère sont de la tribu de Lévi. Ça, on va le voir tout de suite. Et donc, comme eux ont tenté de s'assimiler, alors Hachem, Chazal disent, vous voulez s'assimiler, ça veut dire effacer la différence radicale qu'il y a entre les Israël et les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés à admettre qu'il y a une différence radicale. Mais il y a une différence radicale. Et l'assimilation, c'est justement la négation de cette différence. Alors Hachem a dit, vous ne voulez plus marquer la différence. Quelle différence il y avait entre un juif et un égyptien? Il n'y avait pas les mitzvot encore. La seule différence qu'il y avait, c'est la Mila. Alors, le Midrash dit qu'ils ont continué de faire la Mila, mais ils ont essayé d'effacer la différence que la Mila créait. C'est-à-dire, ils ont tiré sur les membranes pour essayer de recouvrir ce qui se découvrait grâce à la Mila. C'est toujours une tentation. Chazal disent que même une défaute d'Adam Arishon, ça aurait été ça aussi. C'est-à-dire, finalement, essayer de cacher la marque d'alliance, enfin, ouais, de lien entre Hachem et le clan d'Israël.
Mais Adam Arishon, avec qui il voulait s'assimiler, il était tout seul.
Non, mais comment il voulait cacher quand même. Il voulait, c'est pas seulement. L'assimilation, c'est une des formes de se détacher d'Hachem. Lui, il voulait se détacher d'Hachem, d'après ce Midrash-là. Alors, Vayavid ou Mitzrayim et Bnei Israël, le Farer, alors ils ont accentué les travaux imposés au Bnei Israël. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire Farer? Farer, c'est comme quelque chose qui part en morceaux, quoi, quelque part. Et donc, ils ont imposé les travaux. Rachidi caché, avoda kasha, amfarechet, et agouf, meshamrato. C'est quelque chose qui casse le corps. Il fallait refaire faire des travaux ils étaient cassés dans les travaux de porter les charges lourdes ou le sort de travaux qui étaient faits pour les casser. Effectivement, bechomer, bilvenim, kol avoda kasha, ou avoda basade, bon, ça, vous réviserez au moment de l'Agadat Pessah. Bon, alors maintenant, en désespoir de cause, ça ne marche pas. C'est-à-dire, on a pris des mesures extérieures, ça ne marche pas. Alors, le roi dit aux sages-femmes, aux sages-femmes des Hébreux, justement, l'une c'est Shifra et l'autre c'est Poua. En vérité, ce sont c'est Yocheved, Rachidi, et Myriam. Donc Yocheved et Myriam, donc la mère et la fille, qui sont les sages-femmes en chef, c'est pas elles qui ont fait tous les accouchements. Encore qu'on va voir comment ça se présente, mais elles étaient les chefs responsables. C'est évidemment que lui, il n'a pas parlé à toutes, il a parlé aux chefs. Et il leur a dit, voilà, quand vous allez mettre au monde, enfin, faire accoucher les Ivriotes, les Hébreux, et vous regarderez sur... Quand les femmes seront au moment d'accoucher, et si c'est un garçon, tuez-le. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Et quand la femme sera sur la table d'accouchement, en quelque sorte, alors vous allez introduire vos mains et regarder si c'est un garçon ou une fille, et vous allez, le cas échéant, tuer les garçons, comme de telle sorte qu'ils apparaissent comme mort-nés, enfin, ils sont mort-nés. Alors, pourquoi ils ne tuent que les hommes, que les mâles? Parce que maintenant, il y a une nouvelle dimension, c'est les astrologues. Les astrologues l'ont dit que ce jour-là ou ces jours-là, le Moshiach Otam, celui qui va libérer, qui va sauver les Bnei Israël, il naît. Il naît ce jour-là. Et donc, ben, on va tuer, on va tous les tuer. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de, il n'y aura pas de problème. Alors là, vous apportez ce que, un peu ce que dit le Rav Volbe. Alors, les Mialdot, les sages-femmes, n'ont pas obéi à Paro. Et elles ont laissé vivre, évidemment, tout le monde. Les garçons comme les filles. Et donc, le Passouk dit, le Passouk dit, Vatirena Amialdot et à Elohim. Les sages-femmes craignaient Elohim, velo asuk asher diber alehem melech Mitzrayim, vatrayena et à Yeladim. Ça fait, alors, on dit déjà qu'elles n'ont pas fait ce que Paro a dit, donc on sait qu'elles n'ont pas tué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont fait vivre les enfants, les garçons aussi? Alors, Rachid dit, non seulement elles ne les ont pas tués, mais Mesapkot Lahem, Maim Umazon. Elles les ont nourris. Donc, c'est exactement le contraire de ce que Paro voulait qu'elle fasse. Alors, il y a une remarque intéressante. Le Rav Volbe, il dit, c'est-à-dire, ici, on met l'accent sur, non seulement elles n'ont pas fait le mal, mais elles ont fait du bien alors qu'on ordonnait de faire du mal. Alors, Paro les a convoqués. Et il leur a dit, mais Madoua, si t'es Madabarazé, va trahir Nathan Yadim. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette chose-là? Et pourquoi est-ce que, alors ici, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il leur reproche vraiment de les avoir nourris? Lui, pour lui, probablement, trahir Nathan Yadim, ça veut dire vous les avez laissés vivre. Parce que la réponse, sinon, si la réponse est pourquoi vous avez, si la question c'était pourquoi est-ce que vous les avez laissés, vous les avez nourris, alors la réponse qu'elles vont donner n'est pas suffisante. Donc ça veut dire ici il faut entendre que pour Paro va traîner la blu, ce qui était important, vous les avez laissés vivre. Alors elles ont répondu, l'ochanashim amitsriot a ivriot. Les femmes hébreues, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Qui chayot hena. Elles sont vivaces. Ou alors elles sont comme des bêtes sauvages, en quelque sorte. Le terem tavo alehen ami aledet vialadou. Elles mettent au monde les enfants avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles. Donc elles se débrouillent toutes seules, sans nous. Donc, on arrive toujours trop tard. Alors, visiblement, c'est intéressant. En tout cas, le Paro, il a accepté la réponse, semble-t-il. Alors, elles ont eu une récompense. Vaïtav Elokim la mialdot. Elokim a fait du bien aux sages-femmes. Revaam vayasmu meot. Et au contraire, le peuple a continué de devenir de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants. Et parce que Kiyru am yaldot et à Elohim, vayas laem batim. Alors Hachem, Elohim leur a fait des maisons, littéralement. Batim, Rachidi, Bate, Keuna, Ulvia, Umalchut. Shekruim, Batim. C'est la maison, comme on dit, la maison de France, c'est des choses comme ça. C'est pas qu'il leur a construit des cabanes, des maisons en dur, mais elles sont devenues, si vous voulez, des maisons dans le clan Israël, des grandes familles, si vous voulez. La Keuna et le Via, Cohen, Lévi et Malchut. Alors, la Keuna, l'Alvia, c'est Yocheved, et Malchut de Myriam, parce qu'elle va épouser Kalev, et de Kalev, il y a la royauté. Donc, finalement, ce qui va structurer le clan d'Israël, la prêtrise et la royauté viennent, enfin, oui, elles ont leur source dans le fait que ces femmes-là, donc l'ensemble des sages-femmes, mais comme, bon, c'est les sages-femmes en chef, en quelque sorte, qui ont dirigé les autres, elles ont craint Elohim. Et donc, leur salaire pour avoir craint Elohim, ça a été justement que ce sont elles qui vont structurer le clan d'Israël. Elles n'ont pas simplement aidé à mettre au monde, et voilà, c'est une multitude, mais aussi de la constituer, de construire, structurer le peuple. Rachid dit, quand elles disent, ben, les femmes sont plus vivaces, chayot. Alors Rachid dit, rabotenu darshu, areen meshulot le chayot asadé. Elles sont comparables aux chayot, aux animaux sauvages. She'enan tzrichot mialdot. Les bêtes sauvages, elles n'ont pas besoin de sages-femmes. Alors, Laura, je vous dis ce que le Rav Volbe a dit sur le sujet, là. Il dit, l'Eda, la naissance, c'est le commencement du Chinuch. Commencement de l'éducation, en quelque sorte. Le Chaner, il donne Chanouka, inauguration, etc. C'est Otsaa, Mikoach et la Poal. C'est-à-dire faire passer les choses, actualiser les choses. C'est-à-dire les choses sont là potentiellement et les actualiser. En fait, pour ça, en général, on a besoin d'un autre, de quelqu'un d'autre, pas soi-même. C'est pour ça qu'on a besoin d'un mechaner. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un, d'un éducateur, de parents qui éduquent ou d'autres éducateurs. Le bien dans l'homme, il est là, mais il est potentiel. Il est potentiel, il n'est que potentiel parce que les forces du mal, qui sont majoritaires, il est là avant, il les tient prisonnières en quelque sorte, ces forces. Ça veut dire que le clan d'Israël est comparé ici à des animaux sauvages. Et chaque espèce animale sauvage a des qualités naturelles. Les Bnei Israël, ils ont aussi des qualités naturelles. qualité naturelle, c'est que ils n'ont pas besoin de ce passage, cette actualisation. C'est ce qu'elles ont dit à Paro. Les Ivriot, elles n'ont pas besoin de sage-femme, elles n'ont pas besoin de Mealdot. Elles n'ont pas besoin d'éducateurs. Enfin, les Israël n'ont pas besoin d'éducateurs. Ils sont comparés aux Chayot. Ce n'est pas absolu qu'on a besoin d'un tiers. Les Chayot n'en ont pas besoin. La Torah, elle utilise souvent les noms des animaux sauvages. On dit, le matin, on dit « Eveas kanamer », il faut être comparable à une panthère, « Kalkanesher », aussi léger que l'aigle, « Raskatsvi », comme un cerf, « Gibor » qui arrive, fort comme un lion, pour faire la volonté d'Hachem. Alors, comme on l'a dit, chaque espèce animale, elle a quelque chose de qui correspond à ça, comme quelque chose de spirituel qui lui est là de naturellement en elle. Et c'est ça que Rabbi Yochanan dit, que tout le monde connaît, que si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait appris l'atzniut du chat et l'interdit de voler de la fourmi. Le chat, il a cette sniout, il se cache. Mais c'est naturel, c'est pas qu'il doit travailler pour développer sa sniout. La fourmi, naturellement, elle fait des choses qui, quand on les regarde, ça a l'air de refuser de voler, elle marque le chat. Elles marquent ce qu'elles ont touché, donc les autres ne touchent pas. Le clan d'Israël, il a aussi des midotes naturelles sur lesquelles il n'a pas vraiment besoin de travailler. Mais évidemment, il peut se fourvoyer, mais elles sont là naturellement. On dit que les Bnei Israël, ils sont Rachmanim, Baishanim, Megomnei Chassadim. Quand ils ont cette Rachamim, ils sont un peu timides, honteux, et qu'ils sont généreux. Et même s'ils n'ont pas étudié l'éthique, disait-il, ils n'ont pas suivi les cours d'éthique à l'université, mais de façon naturelle, mais kol adam tsarich mialedet, chaque homme a besoin d'une sage-femme, enfin, de quelqu'un qui le fait naître, en quelque sorte. Quelqu'un d'autre. Il ne peut pas commencer tout seul. Chez le clan d'Israël, quand il est dans sa forme réelle, la vraie forme, même dès le départ, ils n'ont pas besoin de Mialedet. Les choses sont là, naturellement. Dès le premier pas, on n'a pas besoin d'un tiers. Avant la faute d'Adam Arishon, tout était chez lui naturel. La klala, la malédiction qu'Hachem lui a donnée après la faute, c'est que maintenant, pour actualiser les qualités, ça, il faut travailler. La shlemout, la perfection, elle n'est plus automatique, elle est plus naturelle. Et même la naissance n'est plus aussi naturelle. L'argument des Mialdot, c'était que Yaakov Avinu a réparé la faute d'Adam Arishon. Que à ce moment-là, la réalité du clan d'Israël, c'est d'être au-dessus de la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que la Leda chez eux, elle est naturelle. Pas besoin de sage-femme. Ça, c'est ce qu'il disait sur ce qu'elles ont dit à part ce que ça veut dire pour nous, évidemment. Et ensuite, il y a ce verset qui dit que parce qu'elles ont craint à Elohim, alors il leur a fait des maisons. Le Midrash, il dit que les Mialdot, donc Yochevet et Myriam, se sont dit She'im mibne Avraham Avinu, She'anu, pardon, nous sommes des descendants d'Avraham. Donc, non seulement on ne va pas tuer les enfants, mais on va même se soucier de les aider à vivre. Alors, ici, le Rav Vobey, il dit quelque chose qu'on peut, je pense, expliquer un peu autrement. Le fait qu'elles n'ont pas tué les enfants, ça ne montre pas qu'elles craignent Elohim. Parce que sur le meurtre, on a une mitzvah de faire un kiddush Hashem plutôt que de tuer. Mais quand ils ont fait le contraire de ce que Paro a dit, c'est là-dessus qu'ils ont voulu faire en sorte que vraiment les enfants vivent. Ça, c'est par Yirat Shamayim. Elles se sont donc mises en danger, parce que Paro avait dit le contraire. Ils ont fait exactement le contraire. C'est ça, la Yirat Shamayim. Alors, je ne sais pas. En réalité, on peut discuter, mais le problème, c'est que si elles auraient tué les oubarines, les enfants avant qu'ils ne naissent, on n'est pas obligé de se laisser tuer pour ça. Chez nous, on n'est pas metsuvim à la oubrine. C'est-à-dire, le lotirtsar chez les bnei Israël, il n'inclut pas le fœtus ou l'embryon. C'est pas que c'est permis, mais ça n'entre pas dans la catégorie lotirtsar, tu ne tueras pas. Alors bon, on peut dire peut-être que chez elles se considéraient comme bnei noir. Là, chez les bnei noir, c'est inclus dans lotirtsar. Il n'y avait pas de lotirtsar à ce moment-là. Alors peut-être que là-dessus, on peut un peu discuter. Elles auraient pu, justement, peut-être ça augmente aussi leur mérite, elles auraient pu se raconter que bon, c'est pas vraiment tué. Mais bon, elles n'ont pas voulu utiliser, même à supposer qu'elles puissent utiliser cette facilité, si on peut parler comme ça, dire qu'on fait quelque chose d'interdit, mais c'est pas comme de tuer quelqu'un déjà né. Ça, là, ça c'est clair que c'est passible de mort. Donc, c'est juste une remarque en passant sur cette histoire. Il y a une différence entre les Bnei Israël et les autres. Bon, alors ça, encore une fois, ça n'a pas marché. D'accord, ils ont voulu les empêcher d'avoir des enfants. Ça n'a pas marché, par la fatigue. Ils ont essayé d'empêcher d'avoir des garçons en les tuant avant la naissance. Ça n'a pas marché. Et maintenant, Vaetzav Paro le Cholamo. Et bon, Paro donne un ordre à tout son peuple. Kolaben, tous les garçons qui naissent, on les jette dans le Nil. Les filles, on les laisse vivre. Et ça veut dire qu'en fait, le décret de noyer les garçons n'est pas présenté comme un décret anti-Ibné Israël. C'est un décret anti-garçon. On va tuer les garçons. Comme dans certains pays, on tue les filles. Lui, il avait décidé qu'on allait tuer les garçons.
Mais Raph, tuer les garçons, c'est tuer un peuple, puisqu'il n'y a pas de renouvellement.
Et oui, mais ça, ce n'est pas son souci premier. Et vous allez voir que votre question, elle va être répondue tout de suite. Alors, il a donné l'ordre à tout le peuple. Pourquoi? Parce que les astrologues ont dit, à un moment donné, ils ont dit, aujourd'hui naîtra le sauveur d'Ibn Israël, mais nous ne savons pas si c'est un Égyptien ou si c'est un Ben Israël. Et on voit en tout cas que il va avoir, le libérateur, il va avoir un problème avec l'eau, il va mourir à cause de l'eau. Donc ils ont pensé, voilà, très bien, puisqu'il est faible, sa faiblesse c'est l'eau, elle va aller le noyer. Alors effectivement, Moshe Rabbeinu, il va avoir un grand, grave problème avec Memeriva, finalement avec l'eau du rocher sur lequel il a frappé. Ça veut dire, tel que les Chazal le voient, les astrologues ont vu, mais ils ne voient jamais complètement des choses claires. Ils voient des choses, mais c'est flou. Il y a une ambiguïté. Ils ne savent pas exactement. Ça ne sort pas clairement. Alors, bien entendu, ça n'a duré que peu de temps. Si les astrologues ont dit c'est aujourd'hui qu'il va mourir, donc ça veut dire c'est ce jour-là qu'on a tué ou cette semaine-là qu'on a tué tous les garçons. Il ne s'agissait pas de les tuer par la suite, tuer tout le monde par la suite. Voilà, donc ici on a le tableau, on a l'Égypte et on a l'Ibn Israël. Et maintenant on va descendre d'un cran, ou si vous montez d'un cran, on va particulariser la chose et on va commencer à parler de Moshe en réalité. Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Un homme de la maison de Levi, c'est-à-dire en réalité un petit-fils de Yaakov, a pris pour épouse une fille de Levi, c'est-à-dire une petite fille de Levi. Lui, c'est un descendant de Levi. Lévi, c'est le troisième fils de Yaakov. Mais elle est une petite fille directement de Lévi. Donc elle est beaucoup plus âgée que lui. Elle est sa tante. Et ce dont on nous parle ici, quand on nous dit que voilà, il va se marier, mais par la suite, on va apprendre que Aaron et Myriam sont les enfants de ce couple-là. Et ils étaient déjà là. Yocheved et Myriam sont déjà cités avant. Alors, l'idée, c'est, en réalité, il y a bien sûr le Ish en question et la Bat en question, ils étaient déjà mariés, bien avant. Et ils ont eu deux enfants, Aaron et Myriam. Seulement quand il y a eu cette xéra, il disait que il fallait tuer les enfants, jeter les enfants dans le Nil. Alors, Amram, le nom de ce Ish, c'est Amram. Amram a dit à sa femme, il a dit, écoute, moi, je veux pas mettre au monde des enfants pour qu'on les jette dans le Nil à la suite. Donc, ils ont divorcé pour ne pas avoir d'enfants. Et comme il était un des grands, ou le grand maître de la génération, tout le monde a suivi son exemple. Et à ce moment-là, on nous raconte cette histoire étrange, d'accord, d'une petite fille, Myriam, qui dit à son père, il était pire que Paro. D'accord. Une petite fille qui parle comme ça à son père aujourd'hui, et même chez les parents tolérants, probablement qu'elle aurait peut-être une remarque ou bien une paire de claques selon les us et coutumes. Et pourquoi? Parce que Paro, il tue que les garçons. Toi, tu tues tout le monde, les garçons et les filles. Une petite fille qui fait un calvaire romain, raisonnement par force. Et le grand chidouche, c'est pas tellement qu'elle ait parlé. Le grand chidouche, c'est que le père, il a écouté ce qu'elle lui a dit. Et il s'est remarié avec sa femme. Et ce qu'on nous raconte ici, un homme est allé qui a épousé un homme de Lévi, qui a épousé une bat Lévi, c'est le remariage d'Abraham et de Yocheved. Mais c'est un mariage qui a lieu alors qu'il y a toujours ce décret qu'on va jeter les enfants dans le Nil, les garçons dans le Nil. Bon, alors ce qui frappe ici, c'est qu'on ne donne pas le nom, ni de l'homme, ni de la femme. On va les nommer plus tard, mais ici, on ne donne pas leur nom. Et Rashi dit, Vaikach et Bat Lévi, il a pris une fille de Lévi, donc il raconte, à cause de la Xéra de Paro, Chazar Velakra, il l'a réépousée. Et donc, Rashi dit, non seulement il l'a réépousée, mais « Ve'afhi nefra liyot na'ara ». Cette femme-là, elle a 130 ans. Mais quand elle se remarie, elle rajeunit, elle est « na'ara », ça veut dire elle devient très très jeune. Elle est née quand les bnei Yaakov sont entrés en Égypte. On dit elle est née ben Achomot, dans les murailles de l'Égypte. Donc, elle a 130 ans. L'enfant qui va naître, là on va en parler tout de suite, c'est Moshe. Et quand ils vont sortir d'Égypte, Moshe aura 80 ans. Comme ils sont restés en tout 210 ans, c'est là qu'on sait qu'elle était enceinte à 130 ans. Et on l'appelle Bat Lévi. C'est encore une fille alors que... Donc il l'a épousée, elle l'a rajeunie. Et le grand problème, c'est, ça veut dire, elle va avoir un enfant à 130 ans. Mais on a fait tout un plat parce que Sarah a un enfant à 90, elle a un enfant à 130 ans et on passe ça sous silence. Le Ramban explique que si la Torah avait annoncé cette naissance comme elle a annoncé la naissance de Sarah, alors ça aurait été marqué dans la Torah. Mais on n'a pas annoncé. Et donc on considère que d'une certaine manière, c'est pas vraiment un S, c'est pas vraiment un miracle au sens, c'est pas que ça sort effectivement tout à fait de l'ordinaire, mais c'est pas ça que nous on appelle un miracle. Donc ça veut dire il faut entendre désormais, quand vous entendrez parler dans la Torah de miracles, il n'y a de statut de miracle que de quelque chose qui a été annoncé à l'avance. C'est la réalisation de Ness, c'est la réalisation, et pas seulement que ça sort de l'ordinaire. Réalisation de quelque chose qui a été annoncé et sortant complètement de l'ordinaire. Et donc, Batar, Aïcha, Alors, bon, la femme, elle est tombée enceinte, enfin, elle est devenue enceinte, pardon. Et alors, bon, il y avait un problème, que quand elle va mettre au monde cet enfant, ils vont le tuer. Atarisha va-t-elle ben? Elle a vu qu'il tovu. Elle a vu qu'il était tov. On va voir ce que ça veut dire. Et elle a pu le cacher pendant 3 mois. Comment elle a fait pour le cacher pendant 3 mois? Elle a caché pendant 3 mois parce que Rashi va dire que, en fait, elle a accouché à 6 mois et un jour. Le Rema Mepahano, un kabbaliste italien, il dit qu'elle a accouché 7 mois, complet. Bon, c'est une marloquette entre lui et Rachid. Alors, comme elle avait accouché prématurément, les Égyptiens qui en fait surveillaient tout le monde, qui voyaient que quand ils surveillaient pour voir si tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils surveillaient surtout les jeunes femmes. Qu'est-ce qu'ils allaient surveiller une femme qui a 130 ans, 130 ans? Mais comme elle a de nouveau eu un aspect très, très, très jeune, ça a frappé, et donc eux, ils ont dû noter sur leur tablette, dans 9 mois, il faut venir récupérer le gosse, et si c'est un garçon, et le tuer. Donc pendant 3 mois, ils ont pu le cacher. Et puis quand ils pouvaient plus, alors ils ont fabriqué une espèce de panier en osier. Bon, on a mis du goudron, etc. Et on a déposé ce panier dans les roseaux au bord du fleuve. Et le passouk dit, sa sœur, elle s'est éloignée, mais de telle sorte qu'elle pouvait voir ce qui allait se passer, la date Maya Selo. Pourquoi la sœur est allée regarder? Parce qu'en réalité, après que Myriam a fait sa sortie à son père, elle lui a dit, en plus, elle a dit, vous allez mettre au monde le sauveur, en quelque sorte, du clan Israël. Alors, quand il y a eu ce miracle de la naissance de Moshe, son père, Israël, il a embrassé sa fille, il lui a dit, voilà, ta prophétie se réalise. Et quand il a fallu abandonner Moshe au roseau au bord du fleuve, il lui a dit, dis-moi, elle est où ta prophétie? Mais elle était certaine qu'il allait se passer quelque chose. C'est pour ça qu'elle est allée voir. Elle voulait voir. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Alors, ce qui se passe, c'est Bat Paro descend pour se laver littéralement à l'aïe or sur le Nil. Venarotea olchot alia d'ailleurs. Et elle a des servantes qui marchent au bord du Nil. Et la bat Paro, la fille de Paro, elle voit le panier en question, la boîte en question, dans les roseaux. Et le passouk dit des choses étranges. Vatishlach et amata, vatikacher. Alors, on peut lire, elle a envoyé sa servante, et qui a pris le panier, l'a amené à sa maîtresse, vatiftach, elle a ouvert, vatir ehu et al yeled, elle a vu l'enfant. Et Nahar Boché, il pleurait, mais comme un Nahar, Nahar, c'est Un bébé, c'est pas un art. Donc, il pleurait avec une voix au moins d'adolescent. Vatachmol alav, elle a eu pitié de lui. Vatomer, elle a dit, Miyaldea Ivrimze, c'est un enfant des Hébreux. Vatomer Achoto, El Bat Paro, sa sœur, la sœur du bébé dans le panier, là, elle a dit à la Bat Paro, A Elech Vekaratilach, Isha Meneket Mina Ivriot, est-ce que tu veux que j'aille chercher pour toi, appeler pour toi une femme allaitante parmi les Hébreux? Et elle va nourrir elle va allaiter l'enfant. Et la bat parole lui a dit, va. Et la jeune fille est allée, elle a appelé évidemment la mère de Emma Yared. Et la bat parole lui a dit, voilà, prends cet enfant-là, allaite-le pour moi, je te paierai un salaire. Et la femme a pris l'enfant, elle l'a allaité. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire que les servantes marchaient au bord du fleuve? Les servantes, c'était les filles qui obéissaient au décret de Paro. Et quand elles ont vu la princesse qui désobéissait au décret de Paro, s'apprêtait à la dénoncer, évidemment. Il y avait un S, elles sont mortes. Donc, Olchot est aussi ici au présent. Olchot, elles allaient à la mort. Rachidi, la Lashon Mita. Olchot, c'est le fait qu'elles soient au présent. Alors, d'habitude, on aurait dû dire ou bien on passait au futur, mais Olchot, c'est Olchot la Mita. Rotlamout. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des reproches et donc elles s'apprêtaient à dénoncer, elles ont fait des reproches à la princesse. Il y a encore un autre problème. C'est la princesse, quand elle a vu le panier là dans le. Vatishlach et Amata, Vatikacher. Alors, elle a envoyé sa servante pour le chercher. Pourquoi elle l'a envoyé? Ils l'ont mis au bord du fleuve. Elle n'avait qu'à se baisser et ramasser. Alors, les Mfarshim disent, c'est pour montrer qu'en réalité, entre le décret de Paro et ce qu'elle était en train de faire, il y a vraiment une énorme distance. Façon de dire, elle est en train de faire quelque chose qui est totalement impensable en Égypte. Alors, certains disent que la Bat Paro, en fait, elle était en conflit avec son père, parce qu'on dit que le Paro qui était avant celui-ci, c'était le Paro monothéiste, et que, et peut-être pas, mais quand même encore un peu idolâtre, et que le paro actuel, il a complètement rompu avec ça, mais elle était encore dans les adeptes de ce monothéisme-là. Et donc, elle est descendue au fleuve pour se laver complètement de l'idolâtrie. Parce que sinon, pourquoi on nous dit qu'elle est descendue au fleuve? L'Ichot, si elle était allée se promener au bord du fleuve, ça faisait la même chose. Pourquoi nous dire qu'elle est allée se laver, on s'en fiche, je veux dire. Mais bon, elle était déjà dans une démarche de rupture avec son père. Et on dit que le mot « ama », qui veut dire « servante », veut aussi dire « une ama », c'est une coudée. Donc c'est sa main, quoi. Donc, « Vatishlach et Amata », elle a lancé la main, et sa main, il y a des midrashes qui disent, sa main s'est allongée. Et on peut très bien penser, la façon d'allonger sa main pour une princesse qui a une servante, c'est d'envoyer la servante. La servante, elle est le bras, la prolongation du bras de la mère, de sa maîtresse. En réalité, la formulation de Vatiftach, elle a ouvert le panier. Vatireu et Hayeled, c'est un peu, c'est une forme très lourde, un peu ampoulée en quelque sorte. Rashi dit Vatiftach, Vatireu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle l'a vu. Vatireu, elle a vu. Lui, et Hayeled. Le et, il est en trop. À cause de cette forme-là, on est obligé de dire et Hayeled. Et ça veut dire, le et, ça veut dire, comme on dit dans le Kabbet, et Avira, et Imecha. Ça veut dire ton père est aussi quelque chose d'autre qu'on peut rapprocher du père, c'est-à-dire le grand frère. Et donc, il y avait quelque chose, ce hou, tirer où, qui était là avec le Yeled. Razal dit ce qu'elle a vu, et Mirata d'Irachi, elle a un Yeled. Ça, c'est le Pshat. Mais le Midrash, c'est Raata Imo Shrina. Elle a vu la Shrina parce que Et, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que le Yeled, et où, va tirer où, parce qu'elle aurait pu dire va tirer un Yeled. Va tirer où. Ou dans la Torah, ou c'est la Shrina, c'est la présence divine. Donc elle a vu, il y avait quelque chose de particulier. Pourquoi est-ce qu'elle lui propose tout de suite, la fille Myriam, elle lui propose d'aller chercher une nourrice parmi les Hébreux? Parce que Moshe Rabbeinu ne voulait pas boire du sein des nourrices égyptiennes. Après, elles disent, la bouche qui va parler avec Hachem, si on parlait comme ça, et ne peut pas, n'allait pas accepter ça. Donc, du coup, Moshe a été, probablement jusqu'à son sevrage, en tout cas, il était chez ses vrais parents. Mais elle la servante, la princesse, elle l'a adopté. Vaigdal Hayeled, et l'enfant a grandi, Vativie ou le Vatparo, donc la mère, quand il était sevré, en âge d'être sevré, elle l'a ramené, le Vatparo, Vaila le Ben, et il était son fils adoptif, Vatikra Shmo Moshe. Et c'est elle qui lui a donné ce nom de Moshe. Moshe Rabbeinu, il a 7 noms, mais un seul nom courant qu'on utilise pratiquement tout le temps, c'est Moshe. Vatomer, elle a dit, pourquoi je l'appelle Moshe? Parce que Kiminamai Meshitiu. Je l'ai tiré de l'eau. Moshe, donc, ça fait référence au fait qu'il a été tiré de l'eau. Alors, ça va très très vite, hein. Vahi bayamim ahem, vaigdal Moshe, vayetse lechav, vayar besivlotam, vayar ish mitzri, make ish ivri, mechav, vayfen kovacho, vayar kienish, vayar et amitzri, vayet meneu bachol. Voilà. Moshe est maintenant élevé à la cour de Paro. Paro n'a pas de fils, et sa fille, elle a un fils. Donc, Moshe va être élevé quasiment comme le prince héritier. Ce qui fait que, bon, il est au courant de toute la culture égyptienne qu'il doit connaître comme étant un prince héritier. Bon, alors, les Midrashim racontent que il y a des gens qui ont eu des soupçons, etc., comme l'histoire des braises, etc., ça vous connaissez. si vous ne connaissez pas, il faut prendre un livre où on raconte l'histoire des enfants, vous verrez tout ça. Et on nous dit au bout d'un certain temps, « Yami Mahem, ces jours-là, qu'est-ce que c'est que c'est, qu'est-ce qu'ils avaient ces jours en particulier ?» Rashi ramène, c'est marqué « Vaigdal Ayelet ». Vaigdal Moshe. On a déjà dit Vaigdal Ayalet. On a déjà dit qu'il est grand, il a grandi. La vérité, c'est que le Vaigdal Ayalet, c'est le sevrage. Et Vaigdal Moshe, c'est le jeune homme qui a grandi. Bon. Enfin, ce deux fois Vaigdal. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Ilaé, dit Rabbi Yehuda Bar Ilaé, dit Arishon le Koma, va enchaîner le Gdoula. La deuxième Vaigdal Moshe, ça veut dire Sheminehu Paro Albeto. Paro l'a nommé sur sa maison. Il est le prince héritier, c'est lui qui va gérer. Et au moment où on nous dit qu'il est nommé prince héritier, quasiment, on nous dit, Vayetse Elechav, il sort vers ses frères. C'est-à-dire qu'au fond de lui-même, il sait que les esclaves en question, ce sont ses frères. Et il est capable, bien qu'élevé dans la maison de Paro, etc., il est capable de les ressentir comme des frères. Vous voyez, un prince égyptien, quand il sort dans la rue, enfin, quand il sort et qu'il voit des esclaves, il ne les voit pas. Ils n'existent pas. Pour lui, ce n'est pas des êtres humains. C'est des esclaves. Et lui, il est capable de les voir comme ses frères, non seulement comme des hommes, des êtres humains, mais comme ses frères. Il les a vus comme ses frères. Vayar besivlotam. Il a vu leur souffrance. Rashi dit, Vayar besivlotam, Nathan enav velibo, liot mensar aleyem. C'est-à-dire, il a regardé, ça l'a touché, il a souffert de les voir souffrir. Il s'est impliqué, il a senti leur souffrance, il l'a ressenti. Et du coup, lui qui est un prince égyptien, mais qui ressent la souffrance des Bnei Israël, immédiatement il est confronté justement à une situation où il y a un Mitzri et un Israël. Il voit un Égyptien, un des capots, celui qui venait les réveiller le matin et les envoyer au travail de bon matin. Et ce capot-là, il est en train de frapper un Hébreu. Qui est cet Hébreu? Rachidi, Baala shel Shlomit bat Divri, Aya. Venatan en Avba. Balaila emido, veotsio mi beto. Veu chazar, venichnas la baye, tu ba lishto. Tasvura shu Baala. Chazar, ish le beto, virgish badabar. Kshera oto mitzri, shirgish badavar. Aya make ou verode kolayom. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet Égyptien-là, il a vu la femme de l'Hébreu, là, et bon, il l'a désiré. Alors, de nuit, il est venu, il a sorti l'Hébreu, il l'a envoyé à un travail, je sais pas, et il est rentré dans la maison. Elle a pensé que c'était son mari qui revenait, qui avait oublié, je ne sais pas quoi. Il a profité et il l'a violée. Et le matin, l'Hébreu, il est revenu, il a compris ce qui se passait. Et quand l'Égyptien a compris qu'il avait compris, alors il passait son temps toute la journée à le frapper, à le, parce qu'il voulait le faire disparaître, quoi, de s'écrouler. Vaifen Kovacho. Il a regardé. Il a regardé là et là. Alors Rachidi, il a regardé ce qu'il lui avait fait à la maison, ce qu'il était en train de lui faire bassader à l'extérieur. Mais le film Chouto, ce qui est Bashmao, mais ça, c'est une dracha. Il a compris, Moshe a compris de quoi il s'agissait. Mais Rachid dit, mais le pshat, c'est, il a regardé à gauche et à droite. Voyard qui est niche. Alors, littéralement, ça veut dire, il a vu qu'il n'y avait personne. Et il l'a tué. En fait, il l'a tué avec un shem. Un shem, il l'a tué de façon, il n'a pas frappé pour le tuer. Il l'a tué, c'est sûr qu'il l'a tué. Mais avec le shem Hashem, quelque part, je sais pas. Il ne sait pas faire ça, donc il l'a tué de façon, disons, extraordinaire. Et Rachamim m'ont entendu, Bayar qui ein ish. Ils ont compris. Ça voulait dire que de ce Ish Mitzri, il n'y a pas de Ish qui va sortir. En Ish a-t-il la tzet mimeno, chez Gaïer. Il fallait regarder pour tuer quelqu'un, comme on le voit quand Caïn a tué Evel. Tuer quelqu'un, c'est aussi tuer toute sa potentielle postérité. Alors, Moshe Rabbeinu a regardé ce qui pouvait, selon cette potentielle postérité, il a regardé est-ce qu'il y a dans les générations qui pourraient sortir de cet Égyptien-là, quelqu'un qui allait se convertir, qui allait trouver le chemin de Hachem. Rien qui est, il a vu qu'il n'y avait rien. C'est complètement stérile. Alors, c'est comme ça qu'il a pris la décision, donc, de le faire disparaître. Mais lui, il pensait, personne n'avait rien vu. Vayach tamitzri, vayach menu bachol. Bayom hacheni, il est sorti de nouveau. Vayinei shnei anashim, ivrim nitzim. Il y a une dispute entre deux juifs, en fait, deux ivrim. Et lui, il reconnaît que il y en a un qui est le rachat et qui frappe l'autre, et lui, et Moshe lui dit, mais au rachat, pourquoi tu frappes ton prochain? Alors il lui a dit, mais qui est-ce qui t'a nommé responsable, prince, pour nous juger? Tu es un prince, c'est vrai, tu es un prince égyptien, mais tu n'es pas en charge de nous juger. Ensuite, Misamcha le Ish, il lui a demandé, mais tu es encore un nar, tu es encore très très jeune. Tu n'es même pas un Ish, tu n'es pas encore déjà, tu n'es pas encore un homme. Qui est-ce qui t'a, est-ce qu'on t'a désigné comme responsable des esclaves? Allez, Argaini à ta Omer, est-ce que tu voudrais peut-être me tuer? Comme tu as tué l'Égyptien. Va yira Moshe, et du coup Moshe à ce moment-là, bon, il a craint. Et le Midrash dit Rashi, Daglo al Sherab Israël Reshaim Datouin. Amar Meata, Shema Enam Ruim Nigael. Ici, c'est, on va terminer avec ça, c'est quelque chose d'absolument terrible. Bon, alors, d'où est-ce qu'on sait qu'il l'a tué avec, en utilisant le Shem Hashem? Ale Argeni Ata Omer. Pourquoi on dit Omer ici? Il n'a rien dit. Est-ce que tu vas dire quelque chose, dire un mot, tu vas dire le Shem, et avec ça, tu vas me tuer? Donc, là, on apprend qu'il l'a tué avec, avec un Shem, avec un nom divin. Et alors, le pshat, c'est que Moshe a eu peur. Bon, il a. Mais le Midrash, c'est qu'il a eu peur, mais pas qu'il a eu peur pour lui. Mais il a eu peur parce qu'il a vu qu'il y avait dans le clan d'Israël des Rechaïm, des délateurs. Ça veut dire, on dit comme ça, que Moshe Rabbeinu avait une question. Les Bnei Israël, ils souffrent ici. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ils sont réduits en esclavage? Pourquoi ils souffrent? L'autre, même si Paro, il s'est raconté des histoires et tout, mais ok, il peut se penser ce qu'il veut, mais pourquoi Hachem, quelque part, il laisse faire cette souffrance des Bnei Israël? C'est inacceptable. Alors, il a eu très peur parce que il dit, mais s'il y a des délateurs dans ce peuple, alors ce peuple ne mérite peut-être pas d'être libéré. Pourquoi? Parce que la délation, ça casse le peuple. Il n'y a plus d'unité du peuple. Quand on dénonce, il n'y a plus d'unité. C'est une façon de faire des îlots comme ça. Et donc, s'il perd sa qualité de peuple, et on va pas, il ne peut pas sortir. Ce n'est pas des individus qui vont sortir. Il faut faire sortir ces gens qui sont appelés à devenir un peuple. Même s'ils ne le sont pour l'instant que dans la bouche des Égyptiens, comme on a vu, Am Bnei Israël, mais pour devenir Am Israël, il faut qu'il y ait un début, quelque chose, pour qu'ils méritent d'être sortis d'Égypte, pour devenir, même quand ils vont sortir d'Égypte, ils ne sont pas complètement un peuple. Mais au fond, qu'il y ait un embryon de peuple, quelque chose, mais pas quelque chose qui casse complètement le peuple. Donc il dit, schéma, peut-être, Enam Ruim le Igaël, peut-être ne sont-ils pas aptes, ils ne méritent pas d'être sauvés. Bon, ça c'est Vaïra. C'est à la fois une crainte pour lui dans le pshat et une crainte pour le peuple qui ne mérite pas d'être sauvé. C'est-à-dire qu'il se dit, mais pourquoi il souffre? Un jour, ça va s'arrêter. Mais peut-être qu'il ne mérite pas que ça s'arrête. Achen, donc ça veut dire Noda d'avoir, la chose est connue. Alors de nouveau, c'est ce que je vous ai dit pratiquement, Kemashmao, la chose a été connue, bon, on le sait, mais le Midrash, c'est Noda lo adavar, Noda adavar, la chose m'est connue, maintenant je comprends. Haïti, Tamalav, je m'étonnais sur ce peuple. Ma'achatu Israël, mikol shivim umot, liot niradim ba'avodat parech. Pourquoi est-ce qu'ils sont, éprouvés, ils sont frappés de ce travail complètement fou, on donne le travail des hommes aux femmes, etc. Aval ro'ani shem re'uim lekach. Maintenant, je vois qu'ils méritent effectivement ce qu'ils ont. Voilà, on va s'arrêter là. Désolé, mais c'est tellement riche que il faudrait faire cours tous les jours. Au moins.
On peut dire ça tous les Shabbat. C'est pour ça qu'on recommence l'année d'après.
Voilà.
Rav Kronstein, il mérite finalement cette souffrance parce qu'il n'arrive pas à constituer un peuple solidaire.
Oui. Regardez Délateur, c'est la fin des haricots. Ça détruit un peuple. Alors, évidemment, ça ne permet pas à un peuple de devenir un peuple. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Merci beaucoup.
Bonsoir, merci.
Bonsoir,
bonsoir.
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 Le chef c'est un Elian Bessel Shaddai Ishlonan. Omar Ladonai Marci Mesulassi Raif Tarbo. Kiwa Tsilecha Mipar Yakush Meteveravos. Le Vrasi Yasserlar. Le Karat Kenafar Tertsi. Sina Vesorecha Mito. Nosicha Mipar Yakush Yaouf Yomam. Mideva Baoufal Yalor Meketev Yashut Soraim. Ipol Mitsidecha Elef Urovava Miminecha Elecha Loigash. רק בעיניך סבית ושלומת ראשיים תראי, כי אתה אדוני מרסי עליון שמתה מעוניך. לא שימוני אליך רע ונגע לאורך ובעליך. כי מלאכה וצווה לרשמורך בכל הרעיך. על כפיים שאוניך פן תיגוב באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תלך מוס כפה וסבל.